plus qu'autre chose sur cette terre, l'homme s'est toujours efforcé, s'efforce et s'efforcera toujours de trouver le bonheur. Il fouille sa vie et s'agite continuellement à la recherche de ce trésor. Il essaye toutes sortes de recettes, emploie toutes sortes de moyens. Et même si dans telle entreprise ou telle philosophie de la vie, d'autres ont échoué, qu'importe, lui, il espère réussir. Pourtant, très peu de gens sont vraiment heureux. Pourquoi ? Pourquoi est-il si difficile de trouver le bonheur ? Mais au fait, sait-on vraiment ce qu'est le bonheur ? De quoi il est fait ? Sur cette question, beaucoup de gens sont tentés d'emprunter le langage de la Bible lorsqu'elle parle de la vie. Qu'est-ce que le bonheur ? C'est une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Ou encore, le bonheur consiste à s'efforcer d'être le moins malheureux possible. Pour beaucoup, le bonheur se confond avec les plaisirs sous toutes leurs formes. Avec l'argent, beaucoup d'argent est synonyme de beaucoup de bonheur, et avec la gloire. Il est évident que ce sont là des caricatures du bonheur, trompeuses et terriblement attirantes, comme un miroir aux alouettes, vers lequel se précipitent les victimes, éblouies et insensées. Les journaux ne nous rappellent que trop souvent les drames auxquels peut conduire une telle confusion. Voici des gens qui, selon l'expression consacrée, ont tout pour être heureux. La richesse, la beauté et la gloire. Pourtant, ils se donnent la mort. La vie leur est insupportable. Il est significatif, en effet, de constater qu'on enregistre très peu de suicides parmi les gens de conditions humbles. C'est presque toujours la maladie des bien nantis, de ceux à qui il ne manque rien, qui ont tout pour être heureux. Pourtant, il devait y avoir un vide affreux dans ces vies. Quelque chose de fondamental avait été négligé, créant une situation anormale et insupportable. Et là, ce n'est pas de cette manière que frappent ces exemples navrants. Malgré l'avertissement qu'ils constituent, les hommes persistent à croire que le bonheur est synonyme d'argent, de succès, ou tout au moins qu'il dépend d'une confortable sécurité matérielle. D'où l'anomalie qui consiste à brûler sa vie à la recherche des biens matériels qui sont censés détenir le secret du bonheur. Dans ces conditions, ce n'est pas le bonheur que l'on trouve, mais une suite de plaisirs qui, à la longue, ont l'effet déprimant d'un feu d'artifice. Chaque explosion de lumière dans le ciel est suivie de profondes ténèbres. Et lorsqu'on a joui du bouquet et que la fête est terminée, l'on se retrouve dans la réalité désespérante d'une grande nuit. Je voudrais que nous nous tournions à présent vers ceux qui parlent de la joie et du bonheur avec une grande simplicité, comme d'une douce lumière qui éclaire toujours, même dans les moments les plus difficiles de l'existence, comme de quelque chose accessible à tous. Il est étonnant de constater combien de fois la Bible fait mention de la joie. Il est souvent question dans ces pages de grande joie, de remplir de joie, de combler de joie, de tressaillir de joie et d'allégresse. Et lorsqu'on interroge ceux qui dans la Bible parlent aussi librement de cet état qui est si rare parmi les hommes, on se demande s'il ne s'agit pas là d'un langage propre à la religion, de quelque utopie, d'une rêverie qui n'a rien à voir avec la réalité et qui est en tout cas absolument inaccessible à l'homme. Mais on s'aperçoit bientôt que la Bible adresse aux hommes une invitation à la joie pendant leur passage sur la terre, et en des termes si réalistes qu'ils éveillent à coup sûr notre curiosité et notre soif de bonheur. Voici par exemple l'apôtre Paul, prisonnier des Romains, qui écrit dans une de ses lettres « Soyez toujours joyeux, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. » Qu'est-ce qui lui faisait dire cela? Qu'est-ce qui faisait dire à David quelques siècles auparavant « Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. » Qu'est-ce qui pouvait faire dire à l'apôtre Paul « Nous sommes tenus pour imposteurs et pourtant véridiques. » Pour gens obscurs, nous pourtant si connus. Pour gens qui vont mourir et nous voilà vivants. Pour gens qu'on châtie, mais sans les mettre à mort. Pour affligés, nous qui sommes toujours joyeux. Pour pauvres, nous qui faisons tant de riches. Pour gens qui n'ont rien, nous qui possédons tout. On sent immédiatement que ce langage est l'expression d'un regard tout particulier sur la vie, d'une conception de l'existence différente de celle de la plupart des hommes. On a l'impression d'un secret que possèdent ces hommes qui parlent ainsi. Car il n'y a pas de doute, ils connaissent le bonheur. Non pas cette étincelle fragile qui s'évanouit au moindre souffle, mais cette lumière chaude et permanente, capables de résister aux plus fortes tempêtes. Lorsqu'on s'intéresse à ce qu'ils disent, car ils nous parlent dans l'intention de nous communiquer leur joie, on fait cette découverte fondamentale qu'ils ont faite avant nous. Le bonheur, ce n'est pas une conquête, c'est une conséquence. Cherchez le bonheur et vous ne le trouverez pas. Mais cherchez le Seigneur et le bonheur sera la conséquence de cette recherche. Le Christ n'avait-il pas dit « Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de ce que vous serez vêtu. De quoi vous serez vêtu, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, c'est-à-dire cherchez d'abord à faire la volonté de Dieu dans votre vie, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » C'est une véritable révolution dans notre façon de voir et de concevoir la vie. C'est aussi, et surtout, une révélation qu'il nous confie, une règle à suivre, un plan pour arriver à ce but auquel nous aspirons tous. Jésus dit encore, « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Chers amis, nous sommes tous nés avec un besoin fondamental en nous. Comme le poisson a besoin de l'eau et la plante de la lumière pour vivre, nous avons besoin de Dieu. Vivre sans Dieu, uniquement pour soi, avec pour seul objectif le confort animal, c'est vouer sa vie à l'échec, à l'insatisfaction, l'amertume, et nous l'avons vu, au désespoir et à la destruction. L'homme est fait de telle façon qu'il ne peut pas trouver la paix véritable et le bonheur vrai hors de la perspective de Dieu. Autant sortir un poisson de l'eau et priver la plante de la lumière. C'est la connaissance de cette vérité fondamentale qui a fait dire à David « L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je le loue par mes chants. Tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils auront de l'allégresse à toujours et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. » Oui, le bonheur est une conséquence et non pas une conquête. Il est une conséquence de la foi. « Béni soit Dieu !» s'exclame l'apôtre Pierre vers la fin de sa vie, qui nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Par la foi, il nous est donné de voir ce qui est invisible et éternel. Sans la foi, nous ne pouvons voir que ce qui est visible et passager. Par la foi, nous avons l'assurance que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, qu'aucune puissance ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, et que malgré les apparences, dans ce monde matérialiste, incrédule et souvent moqueur, le chrétien est en définitive plus que vainqueur. Le bonheur est aussi une conséquence du salut. Lorsque l'évangéliste Philippe eut baptisé l'Éthiopien, la Bible nous dit que ce dernier, tout joyeux, poursuivit sa route. Lorsque Paul eut baptisé le Philippien et sa famille, cet homme se réjouit avec toute sa famille. Lorsqu'après la prédication de Pierre, 3000 personnes furent baptisées à Jérusalem, il est écrit que tous ces chrétiens étaient chaque jour assidus au temple, tous ensemble. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Pourquoi cette joie? Parce que le salut était venu sur ces vies. Dieu ne les considérait plus comme coupables. La dette avait été remise en entier. On oublie trop souvent que le Christ est venu pour sauver les hommes de leurs péchés, qu'il est mort à cause du péché, et que la joie du salut vient de l'assurance que nos fautes sont effacées. Si le bonheur est la conséquence de la foi et du salut, ce bonheur est aussi la conséquence de la fidélité et de la persévérance par lesquelles il s'entretient. La vie est cette portion d'éternité que Dieu nous a confiée. À chacun, il donne sa part de temps, de talent, d'énergie, de biens, d'occasions, d'épreuves. À chacun, il demandera de lui rendre compte de l'usage qu'il aura fait de tout cela. Et c'est encore là une invitation à la joie, car à celui qui lui sera resté fidèle, il dira « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Il est vrai que le chemin de la vie est souvent pénible, mais la promesse, comme une lumière constante au fond de la nuit de l'épreuve, est là qui brille et qui soutient. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec des chants d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Ce n'est pas seulement de la poésie pure, mais c'est une réalité. Chers amis, sachons tirer profit des conseils et de l'expérience de ceux qui, dans la Bible, nous parlent au nom de Dieu. Leur leçon est fondamentale, elle est capitale. Cherchez le bonheur pour le bonheur et vous ne trouverez que déception, frustration et désespoir. Mais cherchez d'abord à plaire à votre Créateur en obéissant à sa parole et vous trouverez en Christ le chemin, la vérité et la vie. C'est la seule vraie définition du bonheur.